Émile Gaboriau, Les Cotillons célèbres, La Marquise de Pompadour. Il y avait grand bal à l'hôtel de ville, ce palais de la bourgeoisie. Paris, qui s'associait alors aux joies comme aux douleurs de la famille royale, prétendait célébrer dignement le mariage de Monseigneur le Dauphin. La fête devait être splendide et digne des hôtes illustres qui allaient l'honorer de leur présence. C'était un bal masqué que donnaient à leur souverain messieurs les échevins de la bonne ville de Paris. La fête avait le caractère d'un grand concours de nations et de divinités de la mythologie. La terre et le ciel se donnaient rendez-vous pour distraire un instant le mélancolique Louis XV. Bourgeoises et grandes dames avaient fait un saut de toilette et d'imagination. Mais si la cour l'emportait par la richesse et la variété des costumes, la palme de la beauté restait aux mains des belles et fraîches jeunes femmes de la ville, dont le rouge et le blanc ne gâtaient point les ravissants visages. Le roi, d'un œil d'air distrait, se promenait au milieu de cette foule immense, bigarrée, gracieuse, qui s'écartait et s'inclinait respectueusement sur son passage, insensible aux mises d'agacement dont il était l'objet, lorsqu'il vit s'avancer vers lui, le carquois sur l'épaule, un arc d'argent à la main, une ravissante Diane chasseresse, à la jambe fine, aux bras blancs et ronds, à la démarche de déesse. La gracieuse Diane était masquée, mais d'admirables yeux brillaient sous son loup de velours noir, et ses lèvres roses entr'ouvertes laissaient apercevoir une double rangée de perles fines. « Belle chasseresse, dit le roi, surpris et charmé, les traits que vous décochez sont mortels. » Mais la coquette nymphe, après un gracieux salut, se perdit dans la foule pressée. Le roi ne tarda pas à la rejoindre, et après 5 minutes d'une conversation spirituelle et enjouée, étincelante de fines railleries, semée de flatteries ingénieuses, le monarque semblait avoir oublié son ennui. La belle Diane, cependant, ne s'était pas encore démasquée. Lorsqu'à la prière de son royal interlocuteur, elle eut ôté le loup de velours qui cachait son visage, le roi, amoureux déjà de la spirituelle sirène, reconnut une gracieuse chasseresse qui, maintes fois dans ses chasses de la forêt de Sénart, lui était apparue tantôt vive et hardie, emportée au galop d'un cheval fougueux, tantôt nonchalante et paresseuse, à demi couchée dans une conque élégante de nacre et de cristal attelée de chevaux blancs. Laissant le roi à sa muette admiration, une seconde fois, elle se jeta dans la foule. Mais, soit calcul, soit maladresse, elle laissa tomber le mouchoir de précieuse dentelle qu'elle tenait à la main. Le roi le ramassa, et ne pouvant atteindre la belle fugitive avec cette grâce parfaite qu'il mettait à toutes ses actions, il le lui jeta. « Le roi vient jeter le mouchoir !» ainsi dit un courtisan. Ce propos, comme un murmure confus, circula dans la salle. Des groupes se formèrent pour discuter l'action du roi. Chacun voulait voir cette Diane chasseresse qui, dissipant le chagrin que Louis XV ressentait encore de la mort de la duchesse de Châteauroux, avait fait une si vive impression sur son cœur qu'au milieu d'une fête devant la ville et la cour, il n'avait pas hésité à lui faire une déclaration. Mais vainement, les favoris du roi se répandirent dans les salons. Fouillèrent du regard les longues galeries resplendissantes de lumière, pénétrèrent dans les bosquets où le jour était plus sombre, ils ne purent retrouver la nymphe fugitive. Son but était atteint sans doute, elle avait disparu. La Diane chasseresse du palais de la ville, l'Amazone hardie de la forêt de Sénart, était la belle Jeanne-Antoinette Poisson, devenue la femme du seigneur d'Étiole. Le nom de cette femme charmante n'était pas inconnu à la cour. Tous ceux qui, dans les bois de Sénar, suivaient habituellement les chasses royales, avaient remarqué la belle promeneuse. Ses costumes, parfois étranges, mais toujours coquets, sa voiture de cristal et de nacre avaient attiré les regards de Louis XV. Le roi, à différentes reprises, en avait parlé au souper qui suivait toujours les chasses. Et selon d'Étiole, jeté ainsi par hasard au milieu des vives et libres causeries des convives, avait toujours causé à Madame de Châteauroux un étrange malaise. Jeannette Antoinette Poisson était née à Paris en 1721. Le mari de sa mère, un certain Antoine Poisson, avait eu une existence au moins aventureuse. Fournisseur des vivres de l'armée de Villars, poursuivi pour ses dilapidations par la chambre ardente créée par le régent pour faire rendre gorge aux financiers et aux fournisseurs, il n'essaya point de se justifier. Réalisant à la hâte tout ce qu'il put du produit de ses infidélités, il s'enfuit en toute hâte en Hollande. Bien lui en prit, il fut condamné par contumace à être pendu. Poisson resta plusieurs années à l'étranger. Enfin, grâce aux nombreux amis de sa femme, il put faire casser l'arrêt et rentra en France. À son retour, il occupa chez les frères Paris, ces heureux et riches financiers, le poste difficile et délicat de premier commis. Il devint ensuite fournisseur des vivres, de la viande des Invalides, ce qui a fait dire à quelques pamphlétaires qu'il était bouché. Madame Poisson, fille elle-même d'un riche financier, n'était rien moins qu'une vertu rigide. Jolie, galante, elle avait eu les mœurs faciles et relâchées des femmes de la Régence, et avait empli les salons de la finance du bruit de ses amours. Deux de ses amants, un des frères Paris, protecteur de son mari, et le richissime fermier général Lenormand de Thurheim, se disputèrent longtemps la paternité de celle qui, devenue marquise de Pompadour, gouverna 20 ans durant et la France et le roi. Ce fut dès son enfance une ravissante enfant que cette Antoinette, et ses heureuses saillies, ses mines enfantines, faisait l'admiration de tous ceux qui fréquentaient les salons de sa mère et de M. de Tourneheim. Mais plus que tous les autres, la mère Poisson admirait sa fille. « C'est un vrai morceau de roi, » disait-elle toujours. Oh, « Vous verrez, quand elle sera grande. » C'est donc avec cette idée parfaitement arrêtée d'en faire une plus tard un régal de roi que cette femme galante éleva sa fille. Une éducation artiste et littéraire développa de bonne heure tous ses talents et toutes ses vanités. Dressée pour le plaisir, comme les courtisanes de l'ancienne Grèce, elle s'habitua peu à peu à regarder la position de maîtresse du roi comme l'idéal de l'ambition féminine. À 18 ans, Jeanne-Antoinette Poisson était la plus délicieuse personne que l'on pût rêver. Elle avait toutes les séductions, tous les enchantements. Elle ravissait par les charmes de son esprit, par sa conversation étincelante, par ses grâces inimitables, ceux que sa beauté ne fascinait pas au premier regard. Aussi tous les salons de la haute finance s'arrachaient cette fille sans rivale, et ses admirateurs lui faisaient comme une cour dont les louanges l'enivraient. Plusieurs fois déjà, on avait demandé sa main. Mais M. de Thurnheim, auquel décidément le financier Paris avait abandonné tous les droits de la paternité, s'était réservé le soin de lui trouver un époux digne d'elle. Cet époux devait être un de ses neveux, Jean-Baptiste Lenormand d'Étiole, syndic de la ferme générale et depuis longtemps amoureux d'Antoinette. La mère Poisson goûta fort ce mariage. Le jeune Normand avait un caractère paisible, les sens rassis, l'esprit facile et le cœur bon. Elle pensa que si jamais sa fille avait besoin de toute sa liberté, ce serait un mari commode et d'humeur accommodante. Aux premières ouvertures de ce mariage, la famille du jeune amoureux se récria. La réputation des époux Poisson était bien faite, en effet, pour dégoûter de toute alliance. Mais M. de Turnheim insista. Il était sans enfant. Et il déclara que toute sa fortune reviendrait au mari d'Antoinette, et la crainte de voir un jour cette opulente succession enrichir une famille étrangère leva tous les scrupules des parents, ils donnèrent leur consentement. Antoinette Poisson, richement dotée par M. de Turnheim, devint donc Madame Lenormand d'Étiolles. Aimée et adorée de son mari, adulée de tous ceux qui l'approchaient, la belle d'Étiolles fit peu parler d'elle. Au scandale de sa mère, elle ne voulait pas ajouter ses scandales. Son démon familier lui parlait dans la nuit, et dans le silence de haute destinée, elle ménageait sa réputation, comme on épargne un capital. Elle aimait le roi. Oui, elle l'aimait à cette époque. Quoi qu'en ait dit les faiseurs de libelles et les insulteurs de Belgique et de Hollande. Quel motif la portait à feindre? Que lui manquait-il à cette femme idolâtrée qui enchaînait au char de ses grâces et de sa beauté tous ceux qui la voyaient? Jeune, belle, immensément riche, reine de sujets d'élite, eût-elle sans son amour échangé ses tranquilles bonheurs, ses caressantes voluptés pour les soucis brillants et les amers déboires de la faveur royale? Oui, elle aimait le roi, mais en quoi d'extraordinaire à cela? Tant de femmes l'aimaient alors. C'est qu'en ces temps d'enthousiasme, de dévouement et de foi, le roi était pour tous un être presque surnaturel, un représentant de Dieu, attardé sur la terre pour dicter aux hommes les volontés du ciel. Enfant d'un siècle incrédule et railleur, nous ne pouvons, froid sceptique que nous sommes, comprendre toute la magie qu'avait autrefois ce mot « le roi ». Nul d'ailleurs n'était plus digne que Louis XV d'occuper le cœur d'une femme. Il eût été aimé même sans cette auréole que faisait à son front le pouvoir souverain. Souvent, on le pense, il était question du roi dans les conversations du petit manoir d'Étiolles. La jeune châtelaine s'informait minutieusement à tous les gentilshommes qui venaient s'asseoir à sa table des moindres détails de l'existence du château. Elle suivait avec anxiété toutes les phases des amours royales. Elle voulait bien connaître les favorites, Madame de Mailly, Madame de Vintimille, la duchesse de Châteauroux. Elle se faisait initier au goût du souverain. On lui disait ses plaisirs, ses amusements, ses caprices. Et elle se préparait, dans le recueil de ses heures de solitude, au rôle qu'elle voulait jouer. Elle dessinait son plan, ourdissait sa trame. Car à côté de son amour se dressait son ambition. Elle voulait obtenir les faveurs du roi, mais elle ne voulait pas d'un caprice passager. Elle souhaitait ardemment le rôle de favorite, mais ce rôle, elle voulait le jouer toute sa vie. Afin de pouvoir suivre Louis XV dans la forêt de Sénart, Madame d'Étiolles avait feint une grande passion pour la chasse. Son mari, à genoux devant toutes ses fantaisies, ne s'opposait donc pas à ce qu'elle suivît de loin tous les brillants cavaliers qui, sur les pas du roi, couraient le cerf dans les grands bois. Elle montait hardiment à cheval ou conduisait elle-même un phaéton dans les allées les plus sinueuses, croisant le roi souvent afin d'attirer ses regards. Tant qu'avait duré la faveur de Madame de Châteauroux, la belle d'Étiolles avait dissimulé son amour et ses ambitieuses pensées. Elle attendait son tour avec cette inaltérable patience que donne une immuable volonté. Mais après la mort de la favorite, la phrase face était vacante dans la couche royale, et elle pensa que son heure était enfin venue, et la scène du bal de l'hôtel de ville fut comme le couronnement de son œuvre de séduction. Louis XV, cependant, de retour à Choisy, après les fêtes qui célébrèrent le mariage du dauphin, ne pouvait détacher ses pensées de la belle chasseresse qui lui était un instant apparue. Vainement, ses pourvoyeurs ordinaires, les valets de chambre, essayèrent d'attirer son attention sur quelques femmes qui se disputaient ses faveurs. Mais le roi n'avait de goût à rien. La marquise de Rochechouart elle-même, malgré son esprit et sa beauté, ne put vaincre la froide indifférence du monarque. Un valet de chambre nommé Binet fut le premier confident que choisit Louis XV. Ce Binet fut ravi de la confiance du roi. Il voyait devant lui s'ouvrir le chemin de la fortune. Et justement, il était quelque peu parent des poissons. Il se chargea des premières démarches. Les négociations ne furent ni longues ni difficiles. Madame d'Étioles n'était pas une grande dame pour dicter d'avance ses conditions. Elle accepta donc tout ce que lui proposa Binet. La première entrevue eut lieu dans l'hôtel de M. de Turnheim, rue Croix des Petits Champs. À quelques jours de là, c'est-à-dire le 27 avril 1745, Madame d'Étioles soupait à Versailles avec le roi dans l'ancien appartement de Madame de Mailly. Messieurs de Luxembourg et de Richelieu avaient été invités. Le repas fut gai, la nuit fut longue, et le roi sortit fasciné des bras de l'enchanteresse. 8 jours après, Madame d'Étioles abandonnait son ravissant manoir pour un petit appartement à Versailles. Tout cela avait eu lieu en l'absence de M. d'Étioles, qui était allé passer les fêtes de Pâques chez un de ses amis. À son retour seulement, il apprit tout à la fois que sa femme avait déserté sa maison et qu'elle était maîtresse déclarée. Cette nouvelle frappa M. d'Étioles comme un coup de foudre. Il aimait sa femme, cet homme. Sa première pensée fut de s'armer de ses droits d'époux outragés pour amener l'infidèle. Aux premières démarches qu'il fit, on lui conseilla de se tenir tranquille. Et comme il emplissait Paris de ses lamentations, comme trop de gens s'associaient à sa légitime douleur, il reçut l'avis de se rendre à Avignon et d'y rester jusqu'à nouvel ordre. Alors, dans la violence de son chagrin, il écrivit à sa femme un dernier adieu. C'était un suprême effort qu'il tentait pour le faire revenir à ses devoirs. Madame d'Étioles fut insensible au désespoir de son mari. Seulement elle fit lire cette lettre au roi, afin sans doute de lui montrer quel amour elle lui sacrifiait. Le roi lut la lettre avec attention. Les plaintes de cet époux mortellement blessé dans ses plus chères affections le troublèrent et l'émurent. « Ah, madame, dit-il à sa nouvelle maîtresse, vous aviez là pour mari un honnête et digne homme. » Cependant, Madame d'Étioles habitait désormais Versailles. Le roi lui avait donné l'ancien appartement de cette pauvre comtesse de Mailly, et chaque fois il y soupait chez elle. Des convives étaient alors Richelieu, Boufflet d'Aillan, la marquise de Bellefonds et Madame de Lauragais, dont la destinée fut toujours d'être l'amie des favorites qui se succédèrent dans la couche royale. À l'exemple de Madame de Châteauroux, Madame d'Étioles poussa le roi à prendre le commandement de ses troupes. Mais, plus habile que la duchesse, elle ne voulut pas suivre son amant. Elle lui fit promettre de répondre aux lettres qu'elle lui écrirait, et, sûre des séductions de son style, elle prit l'absence pour auxiliaire. Pendant toute la campagne, le roi lui écrivit presque tous les jours, et ses lettres étaient scellées d'un cachet qui portait ces deux mots, discret et fidèle. Le 7 du mois de septembre, Louis XV faisait son entrée dans sa bonne ville de Paris, et pendant plus de 8 jours, bals, fêtes, illuminations et carrousels célébrèrent le retour du vainqueur de Fontenoy. Ainsi que l'avait prévu Madame d'Étiolle, l'absence avait augmenté l'empire qu'elle exerçait sur le roi. Il revenait plus amoureux que jamais. Son premier souhait en arrivant à Versailles fut donc de fixer la position de la favorite. Tout d'abord, il fallait lui donner un nom. Impossible de présenter à la cour Mademoiselle Poisson, devenue Madame Lenormand d'Étiolle. Il fallait d'abord dissimuler sa roture et effacer autant que possible toute trace du passé. On trouva pour la favorite le titre le marquisat de Pompadour, qui avait fait retour au domaine. Ce nom appartenait à une illustre famille du Limousin, dont le dernier représentant était mort après avoir été compromis dans la conspiration de Cellamare. C'est donc avec le titre de marquise de Pompadour que la fille de Poisson, le fournisseur infidèle, fut solennellement présentée à Versailles le mardi 14 septembre 1745 à 10 heures du soir par la princesse douairière de Conti qui avait vivement sollicité cet honneur. La foule abondait, curieuse de voir cette petite bourgeoise prendre rang au milieu de la cour. Chacun cherchait à deviner quelles seraient les paroles que la reine lui adresserait. Elle se borna à lui demander des nouvelles de Madame de Seyssac, qui jadis avait contribué à obtenir la révision du jugement qui condamnait le père Poisson à être pendu. Confuse, déconcertée, la nouvelle marquise de Pompadour balbutia sa réponse. On ne put saisir que les mots suivants. « Je désire passionnément, madame, accomplir tout ce que votre majesté m'ordonnera pour son service. » Le lendemain, on célébra choisi la présentation de la favorite. Courtisans et grandes dames s'étaient disputés la faveur d'une invitation. Le roi devait revenir à Versailles le lendemain, mais il soupa si prodigieusement qu'il fut pris dans la nuit d'une incommodité assez grave. La reine et toute la cour accoururent aussitôt à Choisy, et dans cette circonstance, Marie Leszczynska, à force de résignation, manqua de dignité. Elle consentit à manger avec Madame de Pompadour. Toutes les dames invitées à cette résidence royale s'assirent à la même table que la concubine. Leur délicatesse se trouvait sauvée par l'exemple de la reine. À l'apparition à la cour de la nouvelle marquise, la cour se partagea en deux parties. Des courtisans serviles, adorateurs quand même des caprices du maître, furent aux pieds de la favorite. Ils se moquaient de ses manières, des locutions bourgeoises, dont elle ne put jamais se défaire, mais ils se moquaient tout bas, résolu à tirer parti de son pouvoir. Les hommes honnêtes, ceux qu'un nouveau scandale indignait, ou qui croyaient encore la religion nécessaire à la conservation de l'ordre social, se rangèrent autour du dauphin afin de balancer autant que possible l'influence de Madame de Pompadour, de la marquise, comme on l'appela dès le premier moment. Et ce nom que lui donnèrent ses ennemis lui resta comme un sobriquet, comme un nom de guerre, Madame de Pompadour fut en effet et sera toujours, par excellence, la marquise. Les gens habiles, d'ailleurs, ne s'y trompèrent pas. Ils s'aperçurent bien vite que c'était un ministre en jupon qui arrivait à Versailles. Le séjour de Madame de Pompadour, pendant cette première période de sa liaison avec le roi, fut le château de Choisy, cette petite maison sans étiquette qu'elle préférait à toutes les autres. Louis XV, encore dans l'ivresse de la possession, passait presque tout son temps auprès d'elle. Il recevait ses ministres dans son salon, demandait son avis et se conformait à ses conseils. Jeanne Poisson de Pompadour remplaçait le cardinal Fleury. La belle favorite, on le voit, n'avait rien perdu à ne pas faire ses conditions à l'avance. À l'époque où nous sommes arrivés, c'est-à-dire 6 mois après ce premier souper avec le roi où assistait le duc de Richelieu, elle avait déjà de ses dons 180 000 livres de rente, un logement splendide à la cour, un appartement dans toutes les résidences royales et le marquisat de Pompadour. L'année suivante, 1746, le roi devait lui donner la terre de Selles, achetée 150 000 livres et dans laquelle on dépensa immédiatement 60 000 livres, rien qu'en réparation, la terre et le château de Crécy, qui valaient 750 000 livres, et enfin deux charges de 500 000 livres chacune. C'était ostensiblement plus de 4 millions en moins d'une année. Mais l'ambition de la favorite ne devait pas se contenter pour si peu. À Paris, l'indignation était grande et l'on chantait dans tous les salons. Autrefois, de Versailles, nous venait le bon goût. Aujourd'hui, la canaille règne-t-il au bout? Si la cour se ravale, de quoi s'étonne-t-on? N'est-ce pas de la halle que nous vient le poisson? L'avènement de Madame de Pompadour fut le signal de changement dans le ministère. Elle voulait des hommes qui lui fussent dévoués. Elle usa donc des prémices de sa faveur pour obtenir le renvoi du contrôleur général Henri, qui pendant 16 ans avait administré avec habileté et intégrité les finances de l'État. Henri avait le malheur d'être l'ennemi des frères Paris, et la favorite n'avait pas oublié ses anciens amis de la finance. Et de plus, il se plaignait des profusions de la maîtresse. Il fut remplacé par M. de Machaut, lié aux intérêts de la ferme générale. C'était un homme probe et rangé, mais à genoux devant toutes les fantaisies de la favorite. Avec Madame de Pompadour, le parti philosophique essaya d'entrer dans les affaires. Sous les jupons du ministre femelle, les poètes et les beaux esprits commencèrent à se glisser à la cour. Il était difficile de les faire accepter de Louis XV. Ce roi, bien qu'essentiellement spirituel, n'aimait ni les artistes ni les gens de lettres. Il détestait surtout les philosophes, ces raisonneurs qui allaient, comme on disait alors, apprendre à penser en Angleterre et revenaient en France propager des idées nouvelles. Mais le roi ne savait rien refuser à Madame de Pompadour et l'on protégea bientôt tous les auteurs de l'encyclopédie. L'hiver de 1747 à 1746 fut des plus brillants à Versailles. La nouvelle favorite entreprenait cette tâche difficile d'amuser le plus inamusable des rois. Et elle réussit cependant. Elle multipliait les soupers, les fêtes, les voyages se succédaient, soit à Choisy, soit dans les châteaux qu'elle tenait des libéralités de son amant. La vie du roi était un perpétuel enchantement. « Comme les jours passent !» s'écriait-il quelquefois. Et le faible souverain s'endormait dans cette déplorable inertie, et le peuple s'indignait de l'empire qu'il subissait. Bientôt, ce fut le tour de Choisy. Choisy devint le séjour des plaisirs, des enchantements. Chaque jour amenait quelque divertissement nouveau, quelque flatte surprise. Gentil Bernard, l'auteur de l'Art d'aimer, secrétaire des Dragons de Coigny, était l'ordonnateur de toutes les fêtes. Jamais, il faut le dire, la coquetterie des moindres détails ne fut poussée plus loin. La marquise, alors dans tout l'éclat de sa beauté, réunissait l'esprit à la gaieté, Elle amusait le roi par ses saillies, ses petites médisances. Elle chantait ou bien elle dansait avec la spontanéité d'un enfant. Madame de Pompadour commença par transformer Choisy. Au moins, cette fortune royale qu'elle devait à l'amour du roi, et dont elle ne savait que faire, servit à encourager tous les arts. Vernet, Latour, Pigalle, Boucher, Watteau devinrent les commensaux ordinaires de la favorite. L'art, grâce à elle, se modifia. Elle avait sous la main de grands artistes pour reproduire toutes les fantaisies de son imagination, tous les caprices de ses rêves. L'art descendit de ses hauteurs pour se prêter aux commodités de la vie. Il se transforma. Il n'était qu'agréable, il devint utile. Il se prêta aux moindres détails de l'ameublement. Ces mille futilités dont une femme s'entoure, ces mille petits riens qui réjouissent ses yeux, devinrent des choses d'art, et aujourd'hui encore, nos femmes à la mode ont pris sous la protection de leur goût ce genre futile et coûteux auquel la marquise a donné son nom. Tous les mérites avaient part aux libéralités royales dont la favorite était la dispensatrice. Et tandis que Boucher enrubanait pour elle les moutons et les bergers, l'architecte Gabriel lui soumettait des plans, Leguet, l'éminent graveur, recueillait sur ses ordres les camées, les pierres gravées et précieux bijoux de l'Antiquité, et Bouchardon, sous ses inspirations, façonnait les dragons et les chimères des grandes pièces d'eau de Versailles. Duclos et Marmontel étaient logés aux frais du roi dans l'hôtel des affaires étrangères, avec 12 000 livres de pension. Enfin, Crébillon le tragique obtenait une pension de 3 000 livres, un logement au Louvre et le titre de bibliothécaire de Choisy avec 5 000 livres. Et cependant, dans ses comptes licencieux, Crébillon fils, plus d'une fois, avait fait des allusions blessantes aux amours de la marquise. Après une représentation brillante de Catilina, Madame de Pompadour obtint encore pour le vieux Crébillon l'honneur d'une impression gratuite de ses œuvres à l'imprimerie royale. Le lendemain, le vieux poète, alors âgé de 81 ans, vint à Choisy remercier sa protectrice. La marquise était souffrante. Elle reçut néanmoins Crébillon et le fit asseoir jusque dans la balustrade de son lit. Et tandis que le poète embrassait avec effusion la main de la marquise, le roi entra. Le vieux tragique eut alors un propos charmant. « Ah, madame, dit-il, nous sommes perdus, le roi nous a surpris. » Louis XV rit beaucoup de cette exclamation du vieillard baisant la main de la marquise comme un amant en bonne fortune. Mais de tous les hôtes de la marquise, artistes, poètes, grands seigneurs, le plus cher à son cœur était assurément l'abbé de Bernis, l'ancien commensal du château d'Étiolles. Les médisants disaient que l'abbé était mieux qu'un ami pour la favorite et qu'elle lui donnait pour rien ce qu'achetait si chèrement Louis XV. Mais il a remboursé généreusement en madrigaux. Sûre de sa puissance, la nouvelle favorite s'occupa de sa famille. Malheureusement, sa mère n'était plus. Malade depuis longtemps, la dame Poisson était morte de joie en apprenant que sa fille était maîtresse déclarée. « Tous mes voeux sont comblés, » dit-elle en expirant, « je pars contente. » 100 épitaphes circulèrent aussitôt, tant à Paris qu'à la cour, et voici celle qui obtint le plus de succès. « Sigy qui, sortant du fumier, sut faire une fortune entière, vendit son honneur au fermier et sa fille au propriétaire. » Le fermier, c'était Monsieur de Turnheim, le propriétaire était le roi. Le père Poisson fut anobli. C'était ravaler l'institution, mais peu importait à Madame de Pompadour. Sa mission semblait être de saper l'ordre de choses établi, et elle accomplissait sa mission sociale. Elle conduisait la royauté à sa ruine et préparait la révolution. Personne ne fut surpris de l'élévation du père Poisson, mais plus que jamais les chansons et les épigrammes circulaient. Madame de Pompadour en trouvait jusque sur sa table de toilette. On disait à la cour que le père Poisson avait une chance de pendu. C'était un homme impudent et grossier. Il venait chez sa fille lorsqu'il avait besoin d'argent, c'est-à-dire souvent. Il forçait toutes les consignes, et la présence du roi ne l'arrêtait pas. En parlant de Louis XV, il disait « Mon gendre !» Certains jours, un valet voulut l'empêcher d'entrer chez la favorite. « Marot !» s'écria le père Poisson, exaspéré. « C'est donc pas que je suis le père de la... du roi ?» Il dînait une autre fois avec des gens de la ferme, chez un financier enrichi depuis peu. La salle à manger était splendide, la chair exquise, les domestiques nombreux. « Morbleu !» dit tout à coup le père de la favorite, que le vin mettait en belle humeur. « Ne dirait-on pas à nous voir une assemblée de princes ? Et cependant, au fond, nous ne sommes tous que des... » Les convives furent prudents de l'empêcher d'aller plus loin. Tel est l'homme auquel Louis XV accorda des lettres de noblesse. Le frère de Madame de Pompadour était plus digne des faveurs royales. Nommé marquis de Vandières, il dut bientôt changer de nom, qui prêtait au ridicule, et on ne l'appelait que marquis d'Avantières. Il prit le marquis de le nom de Marigny. Le roi aimait fort le marquis de Marigny, dont la conversation était instructive, parfois amusante toujours. Il l'admettait volontiers aux soupers intimes et l'appelait son petit frère. Un jour, la marquise allait se mettre à table avec le marquis de Marigny. On annonce le roi. Le marquis se retire. Mais, dit Louis XV à Madame de Pompadour, il me semble que je vois ici deux couverts. Avec qui donc dîniez-vous ?
Sire, avec mon frère.
Mais qu'il reste alors, dit le roi, n'est-il pas de la famille ? Qu'on mette un troisième couvert pour moi.
Tous les courtisans s'inclinaient devant le frère de la maîtresse du roi. Les uns redoutaient son influence, les autres espéraient s'en servir. Un jour, le marquis de Marigny disait au roi, « Oh, je ne saurais vraiment, sire, comprendre ce qui m'arrive. Je ne puis laisser tomber mon mouchoir sans que 20 cordons bleus ne se baissent pour le ramasser. » Mais à ce marquis de fraîche date d'avant-hier, comme disaient les courtisans, il fallait, pour avoir l'air d'un vrai marquis, les ordres du roi. Louis XV hésita longtemps. La faveur était un signe. « C'est que, disait-il, c'est un bien petit poisson pour le mettre au bleu. » Une prière de la favorite leva tous ses scrupules, et pour dispenser le marquis de Marigny de faire ses preuves, on le nomma secrétaire de l'ordre. Il eut un cordon bleu exceptionnel. Cette fois au moins, les faveurs pleuvaient sur un honnête homme. Madame de Pompadour, heureusement pour la France, n'avait pas une nombreuse famille. Son parent le plus éloigné était un certain Poisson de Malvoisin, tambour au régiment du Piémont. Il voulut, comme de raison, profiter de la situation de sa cousine et vint la trouver. On résolut de le faire avancer dans l'armée, mais ce n'est qu'après bien des peines et des démarches qu'on parvint à le caser. Les officiers des régiments consentaient bien à l'accepter, mais à la condition qu'il se battît avec eux tous. De 1746 à 1748, c'est-à-dire jusqu'à la paix d'Aix-la-Chapelle, Madame de Pompadour ne songea qu'à consolider sa puissance. Louis XV ayant été prendre le commandement de ses troupes, Elle le suivit incognito, déguisée en page, à la suite du duc de Richelieu. Bien des dames suivaient alors leurs maris ou leurs amants à l'armée, et le maréchal de Saxe appelait cette partie de son bagage son artillerie légère. Le théâtre de Madame Favart faisait campagne cette année-là, et entre deux assauts, tandis qu'on assiégeait une ville, les officiers couraient au spectacle. À Tongres, la veille de la bataille de Raucoux, le directeur de la troupe annonça que le lendemain, il ferait relâche pour cause de victoire. Lorsque Madame de Pompadour n'accompagnait pas son amant en Frandre, elle se retirait à Choisy et toute la cour, grands seigneurs et grandes dames, venait l'y entourer d'hommages et savoir des nouvelles de l'armée, car elle était, on ne l'ignorait pas, parfaitement renseignée. Elle était en correspondance avec les généraux et le roi lui écrivait presque tous les jours. Le dessin et la gravure la distrayaient aux heures de solitude. Artiste habile, la marquise reproduisait les dessins de Boucher, de Vien ou de Leguet. Mais elle aimait surtout les pierres gravées, imitées de l'antique. Elle gravait, elle sculptait elle-même l'onyx, la sardoine, l'émeraude, la cornaline et l'ivoire. La sollicitude des amateurs éclairés de l'art nous a conservé l'œuvre de Madame de Pompadour et toutes ses œuvres d'art au bas desquelles se retrouve cette signature « Pompadour sculcit » sur une perfection achevée. Lorsque, la campagne terminée, Louis XV revenait à Versailles prendre ses quartiers d'hiver, la marquise continuait près de lui son rôle d'amuseuse, rôle ingrat s'il en fut jamais. Avec un art infini, elle multipliait les distractions les plus diverses. Le roi avait fini par adopter quelques-uns des goûts de sa maîtresse. Il prenait intérêt aux œuvres des artistes dont la marquise était comme la reine. Il se plaisait aux pompes du théâtre et presque chaque jour, l'opéra venait donner des représentations à Versailles. Le roi chassait ensuite et coupait avec ses intimes. Le second mariage du dauphin, dont la première femme était morte en couche l'année précédente, avait été à Paris le signal de fêtes magnifiques. Le roi avait assisté à plusieurs bals masqués donnés à l'hôtel de ville. Ces fêtes faisaient trembler Madame de Pompadour. Elle redoutait pour le roi, instruite par sa propre expérience, les dangers de ces bals où l'intrigue devient audacieuse sous le masque. Pour écarter ce danger, des hommes à elle entouraient inostensiblement le roi et ne le perdaient pas de vue. S'adressait-il à une femme, paraissait-il prendre plaisir à sa conversation, aussitôt la marquise était prévenue et accourait. La paix générale, signée à Aix-la-Chapelle, amena un temps de repos et de joyeux loisirs pour la cour. Tous les brillants gentilshommes qui venaient se faire leurs preuves sur les champs de bataille accoururent oublier à Versailles les fatigues et les dangers. Cette période est la plus brillante du règne de Madame de Pompadour. Sans être arrivée à la toute-puissance, son influence n'a déjà plus d'obstacles, et elle est encore aimée du roi. La femme aimable n'a pas encore fait place à la femme d'État, dont la responsabilité terrible assombrira le front. Enfin, elle est encore dans tout l'éclat de sa jeunesse et de sa beauté. Voici d'ailleurs le portrait de cette favorite, tracé par un homme qui, certes, ne l'aimait pas. On peut la citer encore comme une des très belles femmes de la capitale, et peut-être comme la plus belle. Il y a dans l'ensemble de sa physionomie un tel mélange de vivacité et de tendresse. Elle est si bien, tout à la fois ce qu'on appelle une jolie femme et une belle femme, que la réunion de ses qualités en fait une sorte de phénomène. Cette femme dangereuse, cette habile comédienne, peut être tour à tour superbe, impérieuse, calme, lutine, sensée, curieuse, attentive, enjouée. Sa voix a un ton sentimental qui touche même ceux qui l'aiment le moins et de plus elle possède ce qu'on a l'habitude le moins à la cour, le don des larmes. Elle met peu de rouge, la fraîcheur de son teint lui suffit. Ses yeux ont reçu d'ailleurs une telle vivacité qu'il semble qu'une étincelle en jaillit quand elle donne un coup d'œil. Ses yeux sont châtains, ses dents sont très belles, ainsi que ses mains. Sa taille est fine, bien coupée, de moyenne grandeur et sans aucun défaut. Elle connaît si bien ses qualités qu'elle a grand soin de les aider de tous les secours de l'art. Elle a inventé des négligés, adoptés par la mode, et qu'on appelle les robes à la pompadour, et qui font ressortir toutes les beautés qu'elle semble vouloir cacher. Ce portrait, où l'on reconnaît la main d'un ennemi furieux d'être forcé de se rendre à l'évidence, ne suffit-il pas pour expliquer l'influence de Madame de Pompadour? Ne faisait-elle pas d'ailleurs tous ses efforts pour distraire l'insurmontable ennui d'un roi rassasié de tout? Chaque jour, son imagination fertile lui suggérait quelques moyens nouveaux. Louis XV avait 100 femmes en une seule. Pour l'agacer et le surprendre, la marquise apparaissait chaque jour avec un travestissement nouveau. En grande dame aujourd'hui, demain en paysanne. Aucune mise en scène ne lui coûtait. Le roi avait un jour remarqué une religieuse fort jolie. Il trouva le lendemain la marquise vêtue en sœur grise. Toute jeune fille, Madame de Pompadour avait joué avec succès la comédie et le petit opéra. Devenue reine de Choisy, elle résolut d'y faire élever un théâtre et d'y jouer devant le roi, puisqu'il aimait à la retrouver dans des rôles toujours nouveaux. Cette idée fut exécutée avec la rapidité que donne la toute-puissance. Gabriel construisit la salle, Boucher peignit des décors merveilleux, les répétitions commencèrent, et toute la cour s'arrachait les rôles. Jouer la comédie devant le roi avec Madame de Pompadour, la précieuse faveur. Les principaux artistes du théâtre de Choisy étaient la marquise d'abord, puis Mesdames de Marchais, de Courtenvaux, de Maillebois, de Brancard, d'Estrade, messieurs de Richelieu, de Duras, de Coigny, de Nivernais et d'Entragues. Lorsqu'il y avait un ballet, le marquis de Courtenvaux, le duc de Melfort et le comte de Langeron étaient les premiers sujets. Le duc de Lavallière était le directeur de cette noble compagnie. L'abbé de Lagarde soufflait. Gresset, Crébillot et l'abbé de Bernis dirigeaient les répétitions. Le corps de ballet était insuffisant et les chœurs laissaient à désirer. Mais le roi ne s'en amusait que mieux. « Il chante aussi mal que moi, » disait-il en riant. Et c'était une grosse injure à jeter à des chœurs d'opéra. Le roi la possédait la voix la plus fausse de son royaume. Mais les distractions de la comédie ne suffisaient pas à l'ennuyer Louis XV. Les petits voyages impromptus continuaient, soit à Marly, soit à Crécy, chez la marquise ou à Trianon, que l'on avait fait réparer à grands frais. Les chasses étaient plus fréquentes que jamais. On courait le cerf à Fontainebleau ou à Compiègne, le plus souvent dans la forêt de Sénart. La chasse, voilà la seule vraie passion de Louis XV, celle qu'il conserva jusqu'à la fin de sa vie. À Choisy, après la comédie, après la chasse, au retour de toutes les excursions, on soupait. Le souper, c'était l'heure du repos, de la liberté, de la joie. Les pamphlets du temps nous ont laissé sur les soupers de Louis XV de longs et minutieux détails. Mais tous sont empreints de la plus haineuse exagération. Ces soupers ne furent point, tant que régna la marquise, les crapuleuses orgies racontées avec complaisance par quelques libellistes obscurs. Voici d'ailleurs comment les choses se passaient. Le roi, l'heure du souper venu, désignait 12 ou 15 convives, jamais plus, et l'on passait dans la salle à manger. C'était un charmant salon, meublé avec élégance, décoré par Watteau, Boucher ou Latour. Aucun apprêt de festin ne paraissait. Seulement, au milieu du salon, le parquet dessinait une vaste rosace. À un signe du roi, la rosace s'élevait, et comme dans les contes de fées, on voyait apparaître une table chargée de plats et de flacons, étincelante de cristaux et de porcelaine, éclairée par des centaines de bougies. Le roi s'asseyait, les invités prenaient place. Des pages de la petite écurie, fils de grande famille pour la plupart, servaient le souper rapidement, sans bruit. À chaque service, la table était renouvelée, et au dessert, les pages étaient renvoyées. Alors seulement on oubliait l'étiquette. Mais les propos grossiers du libertinage ou de l'impiété étaient sévèrement bannis. Une ironie spirituelle, légère, superficielle, était la seule arme dont on se servit. On ne discutait pas, on se moquait. Les mots charmants éclataient de tous côtés, les anecdotes spirituelles circulaient autour de la table. La conversation était leste parfois, et même un peu grivoise, mais jamais ordurière. La langue avait d'ailleurs à cette époque une licence qu'aujourd'hui on ne tolérerait plus. Alors s'échangeaient les joyeux défis de Vindahi ou de Tokay, les couples s'emblissaient, se choquaient, se vidaient au bruit charmant des éclats de rire, et quelques poètes, l'abbé de Bernis par exemple, improvisaient d'anacréontiques couplets. Le roi, en se levant, ne donnait pas le signe du départ, et souvent les invités restaient après l'hôte. Mais la liberté n'était pas plus grande, elle ne dégénérait jamais en licence. Le roi se retirait habituellement chez Madame de Pompadour. Parfois, le champagne frappé dont il abusait lui montait à la tête. La marquise en faisait alors ce qu'elle pouvait jusqu'au lendemain. On faisait lever quelques femmes de chambre, mais dans le plus grand mystère, et on préparait du thé. Plus d'une fois, la favorite eut sujet d'être inquiète, et Madame du Hausset raconte que certaines nuits, la vie de Louis XV fut en danger. Mais on avait toujours un médecin sous la main. « Que deviendrais-je, grand Dieu ? » disait la marquise. « Si jamais le roi venait à mourir chez moi, mais je serais massacré. La populace me traînerait dans les ruisseaux. » Le premier médecin la rassurait alors jusqu'à la prochaine mésaventure. Au matin, le roi recevait les ministres chez la favorite, dont le salon était devenu la chambre du conseil. Le roi ne disait mot, il écoutait. La marquise prenait les décisions pour lui. « Sire, disait-elle au roi, les discussions vous donnent la jaunisse. » Le roi la croyait sur parole et la laissait faire. Elle s'exerçait, s'enhardissait au métier d'homme d'État. Afin de se perfectionner, elle travaillait avec chaque ministre en particulier. Mais la marquise était une artiste et non une femme politique. Elle le prouva bien. La paix était faite, et quelle paix! Et les affaires à l'intérieur n'en allaient pas mieux. Aussi, tandis qu'à la cour on dansait, on soupait après la comédie, le peuple murmurait. Mais le roi n'entendait pas le murmure de son peuple. Le roi ne savait même pas le prix du pain à Paris. Et comme un jour un placet lui était parvenu par le plus grand des hasards, il voulut savoir. Alors un courtisan chercha à rassurer le roi. « Sire, lui dit, le pain n'a jamais été meilleur marché. » « Malpeste ! » s'écria un grand seigneur qui était du parti du dauphin. Oh « ben, je suis bien aise de savoir cela. Je vais de ce pas bâtonner mon maître d'hôtel, qui a la pudeur de me le faire payer très cher. » de toutes parts, craquait l'édifice verboulu de la royauté. Il fallait un bras pour soutenir l'édifice, une tête pour diriger ce bras. Il n'y avait ni bras ni tête. Il y avait Madame de Pompadour, une femme charmante, spirituelle, artiste, mais une femme. Ses petites passions, ses jalousies de favorite, ses impressions du moment, tel était son code politique. Le peuple sentait tout cela, et le peuple l'avait en horreur. D'ailleurs, un vent s'était levé qui n'était plus un vent de fronde. C'était le souffle puissant de la liberté. Il venait d'Angleterre et de Genève, de partout un peu. Les philosophes avaient allumé un bûcher pour y brûler toutes les institutions et toutes les croyances, et le vent attisait ce feu terrible. Il y avait encore les parlements qui s'exerçaient à la rébellion, et le clergé qui, par ses divisions et son intolérance, poussait à la révolte. Dans le public, on disait que le traité d'Aix-la-Chapelle était un traité honteux. Madame de Pompadour pensait comme le public, mais qui savait ses pensées? Une des clauses secrètes de ce traité était l'expulsion de France du prince Édouard, le prétendant, ce prince infortuné, pour lequel la France avait prodigué son or et versé son sang. Louis XV voulut tenir la parole donnée, écrite. Un soir, au sortir de l'opéra, le prince Édouard fut saisi, lié, jeté dans une chaise de poste et conduit à la frontière. Le ministère d'alors semblait vraiment être à la discrétion de l'Angleterre. La marquise osa dire au roi ce que tout bas pensait le peuple. « Sire, c'est une lâcheté !» Des pamphlets, des épigrammes, des libelles, seule arme du mécontentement, parurent aussitôt de tous côtés contre le roi, la favorite, les ministres, contre le régiment des gardes qui avait exécuté les ordres reçus et arrêté le prince Édouard. Des gardes, en un mot, le brave régiment vient, dit-on, d'arrêter le fils du prétendant. Il a pris un Anglais. Ah, Dieu, quelle victoire! Muse, grave et bien vite au temple de mémoire ce rare événement. Va, déesse, au sans-voir. Va la prendre à la terre. Car c'est le seul Anglais qui est pris à la guerre. Une épître remarquable dédiée au roi commençait ainsi. Peuple jadis si fier, aujourd'hui si servile, des princes malheureux, vous n'êtes plus l'asile. Vos ennemis, vaincus au champ de Fontenoy, à leurs propres vainqueurs ont imposé la loi. Des enlèvements d'enfants vinrent encore aigrir la population contre le roi et contre la favorite. La faute en est certainement à quelques misérables agents subalternes de la police qui outrepassèrent leurs ordres, mais le peuple ne s'arrête point à ces considérations. Une ordonnance du roi avait étant défendu la mendicité et ordonné l'arrestation des gens sans aveu. À Paris, ils étaient arrêtés et dirigés sur Marseille, où on les embarquait pour les colonies. Et il arriva que des agents de police, pour rançonner quelques pauvres mais honnêtes familles, abusèrent de leur pouvoir et enlevèrent plusieurs enfants. Un jour, un de ces misérables enlève et conduit au dépôt un jeune garçon, espérant forcer la mère à le racheter. Cette femme, au désespoir, croyant son fils perdu, mort, s'élance dans la rue et parcourt tout le faubourg Saint-Antoine, poussant d'horribles cris, invoquant la pitié du peuple. Sur ses pas, la population sort des maisons, des groupes se forment, les mères prennent parti pour la mère. Les rumeurs les plus étranges circulent. On dit que dans tous les quartiers, des enfants ont ainsi disparu. Ce n'est plus un enfant qui a été élevé, ce sont des milliers d'enfants. Et tout à coup, une imputation horrible, épouvantable, se répand dans la foule. On dit que les médecins ont ordonné des bains de sang au roi pour rétablir sa santé usée par la débauche, Et on ajoute que c'est chez la Pompadour que les enfants sont conduits et égorgés pour ces bains réparateurs. Ces rumeurs abominables accroissent l'agitation, les rassemblements augmentent, l'exaspération du peuple est à son comble. On se jette sur les agents de police partout où on les reconnaît. Mais les agents ne sont que les instruments du crime. Le coupable est le lieutenant de police qui ordonne. Et aussitôt la multitude roule ses flots menaçants jusqu'à son hôtel pour le massacrer. Prévenu, il s'enfuit par les jardins. On va escalader les murailles, briser tout dans l'hôtel. Tout à coup, les portes s'ouvrent par les ordres de la femme du lieutenant de police, moins craintif que son époux. Du moment où il peut entrer, le peuple hésite. Il craignait un piège. Mais les troupes de la maison du roi courent à toute bride. À leur vue, l'insurrection se dissipe. On arrête ceux dont la fuite n'a pas été assez prompte, et le lendemain, sans jugement, sans information, coupables ou non, ils sont pendus, sans miséricorde. Le Parlement saisit avec bonheur cette occasion d'être désagréable à la cour. Une information fut décidée. On manda le lieutenant de police pour l'admonester. Mais ce lieutenant était une créature de Madame de Pompadour. Le Parlement le blâmait. Elle le nomma pour le récompenser conseiller d'État. Plus tard, elle l'appela au ministère. Telle était sa politique.